France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France s'intéresse ce soir aux multiples façons de faire la fête en France. Pour la jeunesse des années 80, 90, 2000, les sorties en boîte de nuit étaient incontournables. Eh bien, on verra si c'est encore le cas aujourd'hui ou si c'est complètement passé de mode. Passé de mode, pas si sûr. Comment les jeunes font la fête aujourd'hui dans les grandes villes comme à la campagne? Y a-t-il de nouveaux espaces festifs? Ce soir, on va donc parler de jeux alternatifs, de fêtes à la maison, de fêtes de village aussi. Quelles sont les conditions pour réussir une fête? Le sens de la fête, qu'est-ce que ça engendre aujourd'hui selon les régions? C'est le thème donc ce soir, on en parle jusqu'à 19h avec nos invités.
Éric Delvaux, le 18-20.
Et on verra tout au long de l'émission que lorsqu'on évoque la fête, la musique n'est jamais très loin. C'est d'ailleurs ce que promeut notre premier invité qui sillonne les boulangeries à travers la France pour les ambiancer en pleine journée au son de ses vinyles. Bonsoir Dorian Gamon.
Oui, bonsoir.
Vous êtes DJ Baguette, hein, c'est votre nom de scène. Vous avez 29 ans, originaire de la Drôme. Expliquez-nous ce concept hein, pour apporter une ambiance festive dans les boulangeries et peut-être surtout dans les villages.
Exactement, donc on m'appelle DJ Baguette, je suis à l'origine d'une initiative qui est le Tour de France des boulangeries. Donc depuis le mois de mai 2025, je sillonne tous les villages de France, tous les départements, et je propose une animation insolite qui est poser mes platines à l'intérieur d'une boulangerie pour voilà, rassembler le village, créer encore plus de liens qu'il n'y avait avant. Et c'est une animation voilà, qui parle beaucoup en ce moment, qui fait danser un petit peu cette ruralité, mais pas seulement. Aussi, je me déplace aussi dans les villes et je vois beaucoup de gens qui sourient et qui s'aiment.
Mais un concept original, et vous ambiancez les boulangeries de 16h à 20h en début de semaine. Pourquoi le choix de ce créneau?
Alors tout simplement parce que moi je suis DJ depuis plus de 10 ans et le week-end je suis reparti sur voilà, les bars, les restaurants, un petit peu mon activité première et je consacre le début de semaine à ce Tour de France, voilà, un lundi, un mardi, un mercredi dans les boulangeries.
Avec quelles conséquences pour la boulangerie qui fait appel à vous? Pour la boulangerie comme pour l'ensemble de la commune d'ailleurs plus largement peut-être?
Bien sûr, alors c'est aujourd'hui, ça devient des fêtes de village. Hier, j'étais dans l'Isère, dans un petit village qui s'appelle Saint-Victor-de-Cessieux, et on a rassemblé quasiment 300, 400 personnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la boulangerie. C'est fort, hein, c'est chaleureux. Je pense que les gens ont besoin de se rassembler, de se retrouver. La plupart des villages font des fêtes le 14 juillet ou alors le 15 août, mais entre-temps, il n'y a plus rien. Donc moi, c'est aussi une alternative pour créer des moments de fête au cours d'une année.
Mettre les platines, les vinyles dans une boulangerie, comment vous est venue l'idée ?
Tout simplement parce que voilà, moi je suis un amoureux du patrimoine, hein. J'aime beaucoup effectivement cette saveur d'antan. Quand mes parents m'emmenaient à la boulangerie en sortie d'école pour choisir les pains au chocolat, et je constate malgré moi que voilà, la tendance malheureusement c'est de plus en plus difficile de retrouver des boulangeries au cœur du village. Et moi, je veux un petit peu lutter avec ces artisans. Donc, étant passionné par le monde de la musique, je me suis dit que l'association entre musique et baguette pouvait faire de belles choses. Et je me suis lancé.
Pourquoi les boulangeries et non pas les bars, peut-être plus appropriés, non?
Alors, pour moi, vraiment, le commerce numéro un dans un village, c'est la boulangerie. C'est vraiment un lieu multigénérationnel. Hein. On va retrouver nos aînés qui sont toujours là. Nos jeunes voilà, qui sont de moins en moins là. Et l'idée, c'est un petit peu de se retrouver, cumuler deux générations. Et aujourd'hui, mes réseaux sociaux, voir un DJ dans une boulangerie, ça parle beaucoup à la jeunesse. Et l'objectif, c'est aussi d'attirer cette jeunesse qui délaisse un petit peu cette boulangerie. Et cette boulangerie qui est vraiment l'artère d'un village.
Tout public, quel style de musique proposez-vous?
Alors, on parle plutôt sur un courant musical qui est les années 80. Les années 80, ça traverse des générations, mais aussi des musiques récentes, parce que l'objectif, c'est aussi de faire danser nos jeunes. Donc, on a un mélange. C'est vraiment comme un boulanger qui justement, doit s'adapter aux papilles. Et moi, je m'adapte musicalement aussi.
La fête en France. Merci de ce témoignage original et cette expérience originale. Dorian Gamon, alias DJ Baguette. D'ailleurs, votre prochaine animation, dans quelle commune et quand ?
Alors là, je prends la route des stations. Me voilà donc mercredi prochain à Val Thorens, dans une boulangerie aussi artisanale. Donc j'aurai à cœur d'animer un petit peu ce lieu emblématique.
Et mettre les boulangeries en fête. Donc merci beaucoup. L'esprit de fête, comment s'amuser? Pour certains, ça passe par les jeux de société. 8 Français sur 10 aiment les jeux de société. Un quart y joue au moins une fois par semaine. Et dans ce secteur, eh bien, la France vient de dépasser l'Allemagne. L'Allemagne qui reste pourtant le pilier historique du jeu de société en Europe. La demande des plus de 18 ans a bondi en France. Le jeu de société n'est plus ringard pour les jeunes. Reportage dans un bar à jeux de société. Nous partons à Rouen, au QG des Avenjoueurs, qui a dû récemment d'ailleurs trouver de nouveaux locaux plus grands compte tenu de l'affluence. C'est le micro ouvert de Sandrine Houdin.
Passer la soirée avec le colonel Moutarde, acheter des hôtels, faire des mots contre triple ou tester de nouveaux jeux, ces deux copines adorent ça.
Vas-y, pioche. Oh, cite 3 sports de riches. Le golf, le ping-pong et le...
Alors, à quel moment le ping-pong, c'est un truc de riche?
Alison et Nikki viennent ici les samedis soirs.
Bah en fait, je trouve ça plus convivial.
Que quoi ?
Bah qu'une discothèque par exemple. Je préfère des genres de soirées comme ça, à faire des jeux société, à rigoler avec mes amis, que d'aller danser en boîte de nuit.
Le whisky coca.
Vous avez quel âge ?
J'ai 34 ans.
Vous êtes toute jeune ?
Oui, mais je trouve que je préfère être ici qu'en boîte. Boire un verre et puis rigoler, bah c'est un peu faire la fête en final. Hein.
Et jouer.
Et jouer, surtout jouer.
La table d'à côté, 10 ans de moins, exactement le même discours.
Ça change un peu et puis ça évite de passer les mêmes soirées toutes les semaines donc aussi.
Ça évite de passer les mêmes soirées, ça veut dire quoi ?
Bah, chaque soirée ici va être différente selon le jeu où on joue et tout. Alors que souvent en boîte ça va toujours être répétitif en fait. Que là je pense que si on peut y aller plusieurs jours de suite ça va être différent à chaque fois.
C'est moins individuel je pense. En discothèque on reste avec nos copains, c'est toujours la même musique, toujours la même ambiance. Là en effet comme elle disait, c'est, on change de jeu comme on veut. On peut y aller un peu avec tout le monde, c'est ça qui est cool.
Et là, par exemple, vous jouez à quoi ?
Life.
L'idée ? L'idée, c'est quoi ?
L'idée, en gros, c'est de faire sa meilleure vie tout en pourrissant la vie des autres. C'est super.
Sur les étagères, plus de 500 jeux de société. C'est Pierre-Jean Chaïb qui a monté ce bar à jeux.
C'est parti, en fait, d'une idée à la con. J'ai été avant urbaniste, ce qui n'a à peu près rien à voir, et licenciement économique dans ma boîte. J'ai cherché du boulot, j'en trouvais pas, et à un moment, je me suis retourné avec ma femme, je me suis dit, mais... On organisait à ce moment-là entre 5 et 7 soirées jeux par semaine. Et on s'est dit, mais le jeu de société, c'est quelque chose qui nous passionne. Pourquoi on n'en ferait pas notre métier ?
Ça marche du feu de Dieu, visiblement.
Et oui, ça marche à fond. J'ai agrandi parce que je refusais du monde en permanence. Là, on a 120 places assises et on refuse encore du monde.
Comment vous l'expliquez ?
Je pense que les gens ont besoin de se changer les idées. Ils ont envie de transpirer sur des plateaux. Ils ont envie de suer du cerveau en bougeant leurs pions, en se cassant la tête.
Suer avec des jetons plutôt que suer sur une piste de danse, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Ouais, mais c'est ça. En fait, autour d'une piste de danse, bah, des fois, on danse tout seul, on remue, on transpire. Mais là, on partage quelque chose.
On partage et on se parle surtout, rajoute cet habitué qui sort une boîte de jeu.
Il y a beaucoup de soirées de jeux qui sont organisées avec des personnes qui ne se connaissent pas du tout. Moi d'ailleurs, l'une des premières choses que j'ai fait quand j'ai commencé à jouer, c'était justement, j'étais tout seul à venir dans un bar à jeux, un peu par curiosité. Et en étant ouvert d'esprit, la personne dit, bah écoute, tiens, cette personne-là ne joue pas, elle est toute seule actuellement, est-ce que vous voulez jouer ensemble ? Et c'est comme ça qu'on compte. Moi je sais que régulièrement, quand je viens, il y a des gens qui font partie de groupes, qui viennent juste participer à des groupes de jeux. Et on peut faire des rencontres, pouvoir jouer à plusieurs et découvrir des gens.
Merci monsieur, je vous laisse jouer.
On va retrouver Pierre-Jean en train d'expliquer des règles à de nouveaux clients.
Moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on a une merde dans une merde sociale, et ben en fait, les gens ont vraiment besoin de changer les idées avec les copains. J'ai ressenti un pic de croissance juste après les Gilets jaunes, j'ai ressenti un énorme pic de croissance après le Covid. Les gens ont envie de faire des choses ensemble plutôt que de se retrouver à picoler dans un bar.
Pierre-Jean, je vais avoir besoin de la table, s'il te plaît.
Voici Harold, son associé.
Il y a peut-être aussi une question de budget.
Moi, les jeunes notamment, à partir de 18-25, ce qui est une grosse part de notre clientèle, bah, ils n'ont pas les moyens de sortir. Ça coûte cher d'aller en boîte, c'est une fortune, c'est 10 euros le verre. Et 10 euros le verre pour un whisky coca. Personnellement, bon, moi j'y vais pas pour d'autres raisons, mais 10 euros le verre le whisky coca, je peux pas. Quoi.
Vous pensez que c'est une des raisons aussi du succès auprès des jeunes ici ?
Oui. Ça leur a donné la possibilité de se dire bah, on va tester autre chose et finalement ils ont été conquis par ce autre chose.
Pour faire la fête, on fait autrement quoi.
C'est ça, on fait une fête autrement.
Avec en bonus de belles histoires d'amour.
Ici en fait on drague pas forcément, mais comme c'est un lieu de rencontre, bah il y a des couples qui se forment. J'ai été invité là en avril à mon 10e mariage de clients d'ici. On drague pas vraiment, mais bon, on se rencontre quand même quoi.
Voilà donc pour ce reportage à Rouen parmi les Avenjoueurs. Ce sont les joueurs de jeux de société réunis donc dans un bar pour suer du cerveau. J'ai bien entendu ce reportage micro ouvert de Sandrine Houdin. La musique et la danse pour faire la fête. Exemple à présent dans l'ouest de la France. Bonsoir Christian Jouny.
Bonsoir.
Vous êtes à la tête de trois établissements, à La Baule et à Guérande, un bar à ambiance et deux boîtes de nuit. Vous êtes aussi délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Depuis les années 80, la France a perdu 70% de ses boîtes de nuit, mais il existe donc toujours un public de fidèles ?
Oui, absolument. Les choses évoluent, et d'ailleurs c'est très intéressant d'écouter les intervenants précédents, parce que je crois que les discothèques, oui bien sûr, conservent un intérêt majeur hein, pour une grande partie de la jeunesse. D'ailleurs, quel est le jeune qui n'a pas à un moment ou à un autre de sa vie fréquenté la discothèque ? Il y en a très peu. En revanche, évidemment, on assiste selon la période à laquelle on a envie de sortir. Si je prends l'exemple des 18-23 ans, aujourd'hui, l'intérêt est resté le même hein, que celui que j'ai toujours connu depuis 25 ans. Mais bien évidemment, quand on prend un petit quelques années, on a des besoins qui évoluent. Tout à l'heure, j'entendais une intervenante expliquer que finalement, le bar ambiance musicale était aussi un créneau qui pouvait répondre à ce qu'elles attendaient. Eh bien, je pense que c'est un ensemble de services qui sont aujourd'hui proposés et qui répondent à tout. Toutes ces demandes de la population. Alors, en fonction, bien évidemment, du créneau dans lequel on se situe. À 18 ans, on n'a pas les mêmes aspirations qu'à 25 ou 30.
Et en fonction donc, aussi du lieu géographique, hein, les boîtes de nuit ont longtemps été éloignées des villes à cause des nuisances. Est-ce plus facile aujourd'hui de les installer, ces boîtes de nuit, dans les centres-villes, peut-être pour limiter les accidents de la route à 3h du matin ?
Non, je dirais pas tout à fait la chose. Enfin, je crois que les choses ont beaucoup évolué. La première chose qu'il faut peut-être noter, c'est que la jeunesse a migré vers les villes. Et donc, ne serait-ce que pour une raison fondamentale, qui est celle de poursuivre leurs études. Et donc, fatalement, le milieu rural est devenu plus désertique, plus difficile pour une discothèque. On voit bien qu'aujourd'hui, la discothèque de centre-ville, finalement, tire plutôt bien son épingle du jeu. Alors ensuite, vous avez effectivement, selon les lieux géographiques, en fonction des caractères saisonniers, vous pouvez avoir aussi des établissements qui fonctionnent parfaitement bien pendant la saison d'été ou d'hiver. Mais à l'année, c'est plus difficile de rentabiliser un établissement dans un milieu rural. Là, les choses ont beaucoup évolué.
Est-ce que vous redoutez que la catastrophe de Crans-Montana en Suisse, lors du réveillon, vienne vous faire une mauvaise publicité ?
J'ai redouté l'amalgame, mais grâce à vous, grâce à beaucoup de vos collègues journalistes, nous avons pu justement mettre en avant le fait que dans nos établissements et dans les discothèques en particulier, nous avons aujourd'hui, et ça depuis maintenant plusieurs décennies, hein, tiré les enseignements des drames que nous avons connus en France, car il y en a eu. Et par conséquent, les organes de sécurité qui ont été définis pour nos lieux sont aujourd'hui, répondent en tout cas à un cahier des charges extrêmement sévère et très élevé.
Et donc, je me permets de vous couper, cahier des charges extrêmement sévère, mais le Parisien aujourd'hui en France révèle ce matin que sur les 500 établissements de nuit contrôlés depuis un mois, presque la moitié ne sont pas conformes et 50 même ont été contraints à la fermeture. Est-ce que vous êtes surpris par ce taux de défaillance en France ?
Eh bien, je ne suis pas surpris parce que ça fait maintenant plusieurs années que je m'évertue à expliquer au pouvoir public que nous avons aujourd'hui trop de lieux qui s'improvisent discothèques. Car vous avez probablement noté que à l'issue de ces contrôles qui ont été opérés récemment, il apparaît que ce ne sont pas les discothèques hein, qui ont été prises en défaut.
Ce sont des établissements de nuit, donc c'est un peu... Oui, il n'y a pas que les discothèques, vous avez bien raison de le rappeler.
Mais ce sont très souvent des restaurants à ambiance musicale ou des bars à ambiance musicale qui se sont improvisés discothèques et qui font parfois, je dis bien parfois, hein, je ne cherche pas non plus à généraliser, mais n'importe quoi, et n'ont pas d'ailleurs les mêmes obligations. Il faut comprendre qu'un bar à ambiance musicale aujourd'hui n'a pas du tout les mêmes éléments en matière de sécurité incendie et surtout pas le caractère obligatoire que peut avoir une discothèque. Et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que les pouvoirs publics aujourd'hui ont bien compris que le drame qu'on a connu en Suisse pouvait malheureusement se produire en France si on ne mettait pas en place un certain nombre de règles qui sont aujourd'hui imposées aux discothèques.
Et je précise que les établissements contrôlés ont été épinglés sur les issues de secours obstruées, des alarmes incendies défaillantes ou encore des installations électriques inquiétantes. Merci beaucoup de votre témoignage et de votre éclairage, Christian Jouni. Je rappelle que vous êtes à la tête d'un bar à ambiance et deux boîtes de nuit à La Baule et à Guérande. Vous êtes aussi délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Dans un instant, nous verrons comment la façon de faire la fête en France reflète aussi notre société.
Sunlight feels better. Well, just be your light and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the pain is released and your love will increase and the power will show in your love light.
The Power, c'était Curtis Harding, le choix de Djoubaka, la technique ce soir, Mélissa Etroit, Ronan Mahé et Raphaël Rousseau. Il est 18h40.
France Inter, le 18-20.
Mille façons de faire la fête en France. Qu'est-ce que cette fête reflète de notre société? Eh bien, sur cette question, vous en connaissez un rayon. Philippe Stenner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de sociologie à la Sorbonne Université à Paris, auteur du livre « Faire la fête, sociologie de la joie ». Et dans cet ouvrage, eh bien vous rejetez le terme de « fêtard ». Vous préférez le mot « fêteur ». Quelle différence faites-vous?
Ah, c'est parce que le fêtard a une petite connotation négative. C'est celui qui fait trop la fête, qui boit trop, qui n'est peut-être pas très raisonnable et pas très fiable. Alors que le fêteur, il me semble que c'est un vieux terme utilisé au 19e qui est peut-être plus joli et puis plus positif. parce que les intervenants précédents là que j'ai écoutés avec intérêt montrent bien que le fêteur, donc celui qui va retrouver autour d'un jeu ou d'une boulangerie ou dans une discothèque, bah, il a envie de rencontrer les autres personnes, il a envie d'être à l'unisson avec de la musique ou avec des jeux, et ça c'est quand même un point important. Et donc fêteur, je trouve que c'est plus positif.
Et le sociologue que vous êtes donne quelle définition à la fête ?
Alors la fête telle que je la conçois, c'est la réunion de quatre choses. C'est d'abord un moment où on va faire quelque chose de particulier, un lieu, il faut être un endroit particulier pour se retrouver ensemble. Ça peut être une boulangerie, ça peut être un bar à jeux, ça peut être une discothèque, ça peut être la rue dans une fête de rue. Et puis il faut qu'il y ait un organisateur, les intervenants antérieurs l'ont bien montré, il faut décider d'aller à tel endroit dans une boulangerie, etc., telle discothèque. Et enfin, et c'est ça le point important qui est un peu peut-être d'ailleurs l'angoisse de tout organisateur de fête, il faut que les gens viennent. Il faut qu'il y ait suffisamment de joueurs pour le bar à jeux, il faut que la boulangerie soit bien animée, il faut qu'il y ait une foule dans la rue. Donc voilà, un moment, un lieu, un organisateur et une foule.
Un lieu et une raison sociale aussi. Faire la fête, c'est aussi une cohésion sociale.
Oui, c'est, je pense, le point important pour le sociologue et je pense aussi pour les gens qui participent. La fête, c'est un moment où on se retrouve. Et d'ailleurs, ça a été mentionné là, notamment après le Covid, où on a été isolé, on est resté chacun dans son coin. On pouvait jouer sur Internet comme ça, mais on a envie de jouer avec les gens en face. On a envie de rigoler ensemble. On a envie d'être à l'unisson.
Eh bien, justement, qu'est-ce que les deux années de Covid ont révélé de notre envie et peut-être même de notre besoin de faire la fête ?
Justement, c'est le fait d'en être privé. Je vous rappelle que le président de la République lui-même avait pris la parole officiellement pour dire « la fête c'est fini, on ne peut pas faire la fête ». C'était en mars 2020. Et donc là, ce qui tombe d'en haut, hiératiquement, dire « c'est fini, on ne fait plus la fête », évidemment, dès que ça retourne, dès que cette possibilité retourne, les gens sont ravis, ça c'est évident. Parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. J'ai lu très récemment l'interview de quelqu'un qui avait vécu isolé sur une île paradisiaque. Et il disait « J'ai vu des choses magnifiques, mais je n'ai pas pu les partager ». Et je crois que ce besoin de partage est très important. C'est quelque chose de décisif pour la fête.
Et ça dit, faire la fête, ça ressemble parfois aussi à une injonction. Et c'est peut-être un peu la limite de l'exercice, non ?
Oui. Oui, mais en fait...
Je pense au réveillon, par exemple. Il y a une injonction à faire la fête au réveillon du 31.
C'est la fête familiale. C'est pas tout à fait pareil que la fête...
Ah, la fête familiale, plutôt à Noël. Je pensais à la fête entre amis au réveillon aussi, non ?
Oui. Oh, la fête peut toujours être un petit peu embarrassante. Surtout quand vous êtes, il y a une espèce d'obligation, comme vous l'avez indiqué. Là, ce que vous avez évoqué avec les intervenants antérieurs, c'est des gens qui ont envie. On va à la boulangerie ou on n'y va pas, mais on y va parce qu'on a envie, on va jouer parce qu'on a envie, donc c'est mieux. Et puis par ailleurs, il y a aussi, excusez-moi de...
Je vous en prie.
La fête, ça reflète, mais la fête, ça affiche aussi quelque chose. Ce n'est pas uniquement un reflet, la fête n'est pas passive. Je vous rappelle, bien évidemment, cette fête magnifique qui s'est créée autour des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Et donc là, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un reflet de la société, c'est au contraire la société française qui affiche son identité, affiche sa vitalité culturelle, en attendant la vitalité sportive. Et je crois qu'il ne faut pas voir la fête uniquement comme un phénomène où on se retranche. C'est aussi un lieu que l'on investit, dans lequel on rentre pour produire quelque chose, de la joie, de la rencontre, du plaisir. Bon, voilà.
Et je rappelle au passage que vous êtes, Philippe Stenner, un sociologue de l'économie, et vous allez nous dire dans un instant le lien que vous faites entre la fête et l'économie. Vous restez avec nous, le temps de me tourner vers Corinne Audouin. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Eric.
Vous avez, comme tous les vendredis, décidé de faire un pas de côté sur le thème de la soirée, et pour s'intéresser notamment à la figure du fêtard. On en parlait à l'instant avec Philippe Stenner. J'ai bien dit fêtard et non pas... j'ai bien dit le fêtard et non pas le fêteur.
Oui, tout à fait. Le fêtard, parce que quand il apparaît dans les médias, bien, c'est justement rarement positif. Tout commençait pourtant bien dans l'euphorie de l'après-guerre. Georges Guettari chante la joie retrouvée du petit bal du samedi soir.
Le petit bal du samedi soir, où le cœur plein d'espoir danse les midinettes. Pas de frais pour la toilette, pour ça vous avez le bonsoir. Mais du bonheur dans les yeux de tous les amoureux, ça m'a touché, c'est bête. Je suis entré dans la fête, l'air digne et le cœur joyeux.
Voilà, vous l'avez dans la tête pour la journée. Les bals dans les années 50 à 70, ce sont des lieux de drague, de socialisation pour la jeunesse. La jeunesse qui apparaît comme une catégorie avec sa musique, ses codes, son langage, elle bouleverse l'ordre établi et ça fait peur à la génération d'avant.
23h15, l'échange de coups de poing n'aura duré que quelques minutes.
Ça fait pas ça, ça a pété, hein, ça a pété.
Les bagarres dans les bals, on ne sait jamais vraiment comment et où elles commencent.
Qu'est-ce qui s'est passé alors ce soir, commissaire, ici?
Bon, il s'est passé, comme malheureusement ça se passe trop fréquemment, nous avons des bagarres à la fin des bals. Vous avez une clientèle qui vient pour danser et s'amuser, et une autre clientèle qui espère trouver un défoulement à la fin du bal en échangeant quelques coups de poing, et tous les prétextes sont bons.
Reportage de la RTF en 1974. Les années 80, c'est l'essor des boîtes de nuit, on en a parlé, de la marchandisation de la fête. Alors la gratuité subsiste dans les fêtes très populaires, les carnavals, les fêtes de Bayonne, fêtes joyeuses et très peu encadrées, se souvient l'écrivaine Marie Darieussecq sur France Inter.
Moi je suis née dans un petit village du Pays Basque. Il y avait un phénomène très impressionnant qui existe toujours et qui est formidable d'ailleurs, qui s'appelle les fêtes de Bayonne. C'est une des plus grandes férias du monde. Il y a un monde fou, tout le monde en rouge et blanc et tout le monde extrêmement aviné. Dans les années 80, il y avait un énorme problème, c'était les viols et on ne pouvait pas s'en plaindre. Enfin, les flics n'étaient absolument pas formés à recevoir ces plaintes et c'était toujours la faute de la victime.
Malheureusement, c'est encore un peu le cas.
Ça a progressé. Maintenant, il y a des affiches, non c'est non, SDAS en basse. Ça a vraiment progressé. Mais il y a encore cette idée que cette fille n'avait pas à être vêtue de cette façon, être avinée de cette façon et être dehors à 4h du matin. Ça bouge très très difficilement.
La fête marche souvent sur le fil du rasoir entre liberté et sécurité.
Et à partir des années 90, Corinne, on voit arriver une nouvelle forme de fêtard. Eux veulent une fête libre, sans contrainte et sans violence. On les appelle les toughers.
Oui, le mouvement des free parties arrive d'Angleterre, nourri d'esprits contestataires, d'anticapitalisme. Les toughers investissent des lieux inhabituels, un champ, un hangar abandonné pour danser sur de la techno, des fêtes autogérées où l'on joue à cache-cache avec la police.
Tout le monde au point de rendez-vous et ça passe quoi, ça passe bien même. Donc j'envoie le point de rendez-vous, attention, top départ, périph' extérieur, vous venez par le périph' extérieur, vous démerdez, vous venez par le périph' extérieur. Vous sortez porte de Passy, au feu à droite, direction hippodrome, première à gauche en suivant le lac, toujours tout droit, puis à l'hippodrome, vous vous enfoncez dans la pince, porte de Boulogne. Ok, grosse soirée là.
C'était en 2001 pour une fête mémorable, disent ceux qui étaient à la piscine Molitor, alors désaffectée. Aujourd'hui, le sujet de l'encadrement des rave parties n'est toujours pas vraiment tranché. Mais peut-on arrêter une foule déterminée à faire la fête, même pendant la crise du Covid? La pulsion festive a surgi entre les mailles du filet.
Plus de 500 fêtards réunis dans un hangar. Une ambiance de boîte de nuit en plein confinement. La scène se déroule dans le 14e arrondissement de Marseille. Lorsque les policiers arrivent, beaucoup de participants sont éméchés. D'autres se filment en train de fuir les forces de l'ordre.
Par là que ça cavale de partout, frère.
La plupart des participants ont été verbalisés pour violation du confinement. 135 euros l'amende.
Un souvenir qu'ils raconteront sûrement à leurs enfants. Reportage France 3, décembre 2020. La fête comme soupape de décompression pour supporter la vie moderne. C'est toujours d'actualité, Eric.
Les fêtards et autres toughers au fil des ans dans votre pas de côté. Merci beaucoup. Corinne Audouin, Philippe Stenner, je rappelle que vous êtes professeur émérite de sociologie à Sorbonne Université. l'université à Paris, auteur du livre « Faire la fête, sociologie de la joie ». On parlait de Bayonne. C'est une photo des fêtes de Bayonne hein, qui illustre la couverture de votre livre. Quel rôle joue la foule dans le processus de fête? Vous parlez de principe d'enfoulement d'ailleurs.
Oui. Bah, écoutez, la foule, effectivement, est attendue. Si elle n'est pas là, la fête est ratée. Et donc, dans les années 70, 80, voire même un petit peu après, en feuilletant la presse locale, on voit se dérouler un discours qui va se répéter d'année en année. Bayonne s'ouvre à la foule, Bayonne, la foule en fête, etc. Donc, on veut une espèce d'envahissement de la ville pour justement magnifier la réussite festive. Alors, c'est bien sûr à Bayonne, mais si on va à la braderie de Lille, on va voir un peu la même chose. Dans les autres villes du Sud-Ouest, on a aussi cela. Désormais, il y a un changement. Les maires de ces villes festives appellent à limiter la foule, parce qu'il y en a trop. On n'arrive plus à la contrôler. Et c'est un problème de sécurité.
C'est le phénomène de désenfoulement et vous l'abordez donc effectivement dans vos études. Merci beaucoup Philippe Stenner, professeur émérite de sociologie à Sorbonne Université à Paris. Je rappelle donc le titre de votre livre, Faire la fête, sociologie de la joie, paru aux presses universitaires de France. Dans un instant, l'actualité en région, ce sera après la chanteuse Maureen sur Inter. Automatique, tic, tic, vous aurez bien noté le tic-tac, c'est le titre automatique et la chanteuse s'appelle Maureen. Je vous présente l'équipe d'Une semaine en France, Charline Legris à la rédaction en chef, Juliette Gou à la réalisation. Grand merci à Marius Serriès qui m'a également aidé à préparer cette émission.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
Le multiplex à présent, l'actualité en région avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Bresse-Isère, ICI Provence, ICI Loire-Océan, Nicolas Blanza, Nelly Asna et Marion Fersing. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Dans le Finistère, pour commencer, bonsoir. Nicolas Blanza, c'est notre thématique sur les municipales avec les intempéries qui s'invitent dans la campagne électorale. Ça concerne aussi bien les crues dans les centres-villes que les assauts de l'océan sur le trait de côte.
Et oui, que faire face aux assauts de la nature, à ces pluies incessantes qui gonflent les rivières depuis des semaines ou à ces tempêtes qui martyrisent le trait de côte? Quelle est la meilleure solution pour s'en prémunir ou à minima en limiter les effets? Et surtout, comment le faire ni sans sacrifier le reste des projets, ni sans avoir recours à l'augmentation des impôts locaux qui est difficilement un argument pour faire campagne? À Quimper, la ville-préfecture du Finistère, les différents candidats se fendent tour à tour de communiquer pour dire ce qu'ils comptent entreprendre afin de limiter les dégâts causés par le Ster, un affluent de l'Aude dont les débordements quartier du Moulin Vert inondent les maisons plus que de raison, mais aussi les commerces de l'hypercentre. Et sur la côte, où les communes sont loin de tout être de fortunées stations balnéaires, bien au contraire, eh bien, la question porte souvent sur le cordon du nerf, attaqué, fouetté, grignoté au gré des vagues déchaînées. À Tréfiagat, dans le pays bigoudin, des premières maisons menacées ont commencé à être rasé, indemnisation à la clé. Et dernièrement, c'est la station d'épuration construite sous le niveau de la mer, inondée par la montée des eaux d'un marais qui, une semaine, est restée à l'arrêt. Des pompes ont dû être activées pour évacuer les eaux diluées mais non traitées directement en mer. Alors ici, plus que jamais, le dérèglement climatique est un sujet pour qui veut devenir maire.
Merci Nicolas Blanza. Entre le Finistère, une grande diagonale dans le sud jusqu'à Toulon, Nelly Assena, avec cet exploit scientifique mondial. Les plongeurs de la Marine nationale ont passé 15 jours dans un caisson en simulant une plongée à 250 mètres.
Oui, deux semaines enfermées dans ce gros cylindre blanc installé au centre hyperbare de la marine. Trois plongeurs et une infirmière qui ont donc simulé une descente à 250 mètres de profondeur, un record avec même des incursions à 265 mètres. Il leur a fallu 10 heures pour simuler cette descente par plateau. Puis, une fois le palier atteint, plus aucune notion de jour ni de nuit. Pour respirer, ils n'avaient que de l'hélium qui fait cette drôle de voix. Alors, ils se parlaient en langue des signes et pour rester en contact avec les scientifiques à l'extérieur du caisson, ils s'aidaient de modulateurs de voix. L'objectif de l'expérience, c'était de savoir comment les corps pouvaient réagir à de telles profondeurs, car des plongeurs seront peut-être amenés très prochainement sur des terrains d'exercice à secourir des militaires ou à réparer un câble sous-marin. Il y avait même un deuxième petit caisson simulant une zone humide pour recréer les conditions d'une vraie plongée à 250 mètres. Alors, suivi de près à chaque instant par les équipes à l'extérieur, les plongeurs sont remontés mardi dernier. Ça leur a pris deux jours. Côté leur famille les attendait à l'ouverture des portes. Et puis côté scientifique, toutes ces données de cette première mondiale vont désormais être analysées.
Nelly Assena, ici Provence, on part dans le sud de la Vendée, Marion Fersing, en rappelant que ce sera demain la fête des amoureux. La commune de Saint-Pierre-du-Chemin expose des reliques de Saint-Valentin et vous nous dites que ça vaut le détour.
En tout cas, tous les ans, Saint-Pierre-du-Chemin double sa population pendant cette semaine de fête autour des reliques donc de Saint-Valentin, avec 2500 visiteurs. Chaque journée commence par la visite de l'église, où est exposée une partie des reliques de celui qui est devenu le saint patron des amoureux pour contrer une fête païenne qui avait lieu en fait le lendemain de la Saint-Valentin. Les visiteurs ont aussi droit à un petit cours d'histoire où ils apprennent que c'est en 1847 que le Vatican a confié ses ossements à Saint-Pierre-du-Chemin. Ils sont aujourd'hui exposés dans une vitrine spécialement dédiée et bien sécurisée.
Et la suite du programme, en revanche, n'a rien ni d'historique ni de religieux.
Non, c'est plutôt folklore et compagnie avec dégustation des spécialités vendéennes. Le préfou, ce pain tartiné de beurre à l'ail et la brioche, des produits qui viennent du fournil Saint-Valentin évidemment. Pour la rigolade, il y a le faux mariage avec un faux maire, un faux curé et des mariés choisis dans le public qui ne disent jamais non, nous dit le président de l'association qui organise cette semaine de fête, parce qu'ils sont nombreux ceux qui veulent s'unir sous les bons auspices de Saint-Valentin et profiter aussi des concerts comme ceux cette année de Gilou, son accordéon et son célèbre « Viens boire un petit coup à la maison », vous connaissez la suite. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et désolé si vous l'avez dans la tête toute la soirée.
Ouais, ben je vous remercie. Merci à tous les trois tout de même. Merci à tous les trois, le multiplex des régions, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec nos cousins du réseau ici. À suivre le journal de 19h de Christelle Rebière. Et puis à 19h20, le téléphone sonne. En marge des 41e victoires de la musique, venez nous dire quel rapport vous entretenez avec la musique. 01 45 24 7000.